on s'est permis de mettre une gifle.
Je regarde s'ils sont présents et je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Nous serons observés en permanence. Les surveillants participent à l'observation. Vous allez rencontrer des psychiatres.
Bon messieurs, distribution des couteaux.
Le rôle de l'administration pénitentiaire, c'est d'écraser, d'humilier, d'humaniser. Deux salles couvrant la télé.
Un maton.
Dans les cours de promenade.
Bonsoir.
Salut.
Salut.
On m'entend ?
Oui. On nous entend. Vous êtes sur Radio Dio 89.5 du côté de Saint-Étienne et Radio Canu 102.2 du côté de Lyon. Et vous écoutez l'émission Papillon.
Ouais. Alors.
Voilà. Bon. C'est l'introduction. C'est comme ça. C'est l'émission Papillon. Et ce soir, c'est un peu.
Ça parle de quoi déjà ?
Ça parle de quoi ? Ça parle des prisons, de la justice, la police, tout ça. Ce genre de choses.
Ce soir, on a un petit programme là on attend un coup de fil.
On va donner dans le désordre du coup le programme.
Allez.
Dans le désordre, on va parler de légitime défense et de la loi qui a été votée cet après-midi. On va parler des comparutions immédiates qui ont lieu à Paris, en banlieue parisienne, ces derniers jours, suite aux mobilisations par rapport à l'affaire de Théo, avec des grosses guillemets, comme c'est retransmis dans les médias. Et puis, on va aussi parler de Rachid Boubala et de ses mésaventures avec
FO pénitentiaire. Ouais.
Et voilà.
Pour un tract. Et également, on parlera d'une lettre de revendication d'un prisonnier à Mulhouse. Mmh. Donc voilà. Et peut-être en attendant l'appel de la copine, juste très simplement pour dire qu'hier, il y avait un rassemblement à Saint-Étienne, place du Peuple, d'environ 200 personnes. Contre plus.
Non, la tribune dit 150, je pense que c'était plus 300, 400, voire 1000, 2000 quoi.
On était 5000 quoi.
Moi bon, clairement il y avait plus de monde qu'à Lyon, donc ça tout le monde s'accordait à le dire.
Et plus qu'à Paris. Et du coup, c'était un rassemblement organisé contre les violences et les crimes de la police. Car il y a les policiers qui violent Théo à coups de matraque. Il y a les policiers qui tuent Adama. Il y a les keufs qui tuent Amine Bentoussi. Et il y a toutes ces autres histoires, Wissam El Yami, etc., dont on a cessé de parler à cette antenne. Et voilà. Et en fait, Théo, Adama, c'est pas des histoires anecdotiques. C'est vraiment une violence
systématique.
Et on pourrait encore parler aussi de Mehdi qui s'est fait tuer lors d'une course poursuite à Vénissieux. Et voilà. Et sa famille a notamment organisé un rassemblement, une marche blanche, une marche à Vénissieux, et a subi les intimidations de la part des keufs. Donc voilà, tout ça pour dire que Adama, Théo, c'est des affaires qui sont, c'est des histoires qui sont, et tant mieux, hein, qui ont un large écho médiatique, mais autour de ces histoires-là, il y a des mobilisations, et notamment quand c'est dans des quartiers populaires, il y a de nombreuses arrestations, une répression qui s'ensuit. Et dont on entend très peu parler finalement, que sous l'angle spectaculaire, pour dire qu'il y a en gros des barbares qui incendient, qui voilà, etc., des voitures.
Et souvent c'est aussi pour donner des nombres, des chiffres, parce que c'est impressionnant, le nombre de personnes arrêtées, le nombre de procédures qui ont été enclenchées, le nombre de d'emprisonnement, le nombre de mois qui ont été distribués aux personnes qui sont passées en jugement.
Et ça permet de servir une politique sécuritaire, sauf que derrière ces nombres, il y a des noms, il y a des familles, il y a des personnes, et que bah, du coup, là, ce soir, on a une camarade, une Casco. Tu nous entends ?
Ouais.
Salut, merci d'être à l'antenne. Et toi, t'as assisté aux comparutions, aux différentes comparutions immédiates qu'il y a eu au tribunal de grande instance de Bobigny. Et du coup, c'est ce qu'on était en train de dire, qu'il est vraiment très très important de se rendre à ces comparutions immédiates et pour voir comment la justice se rend mais pas seulement, pour manifester une solidarité à l'égard des personnes qui sont arrêtées. Donc il y a eu tout ce contexte autour de Théo. Est-ce que tu peux nous parler un peu comment ça s'est passé, les mobilisations qu'il y a eu et qui ont fait que bah il y a eu toute une répression derrière qui a amené plusieurs personnes à être arrêtées par les forces de l'ordre et à arriver au tribunal en comparution immédiate et ou qui seront convoquées encore ultérieurement.
D'accord. Alors, moi, je fais partie d'une petite équipe de gens qui se rassemblent au nom d'un comité juridique qui est en construction et qui était déjà activé, on va dire, pour des personnes suite à d'autres révoltes, qui bossant avec des avocats. On bosse avec des avocats dans le sens où, en gros, on s'arrange avec eux pour avoir des prix et c'est des militants qui sont d'accord d'être payés après parce que pour l'instant, on n'a pas du tout les fonds. Et en gros, nous, on se focalise sur les comparutions immédiates là. Et autant les mineurs qui passent, parce qu'il y a énormément de mineurs qui passent, que les majeurs qui passent au TGI en comparution immédiate, qui peuvent demander un renvoi, mais que ne le savent pas en général. Et donc, bien sûr, tout ça, tout est parti de ce qui s'est passé à Aulnay pour Théo. Ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup plus large aujourd'hui et que concrètement, en fait, on se retrouve face à une situation où le TGI de Bobigny est complètement saturé. Par exemple, hier soir, on a fini à 22h30 et on a fini à 22h30 avec 90 dossiers de retard qui n'étaient pas passés. Et sachant que c'est des délibérés de 2 minutes et que c'est la boucherie. En fait, le truc qu'il faut peut-être capter par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est que clairement, oui, ça s'embrasse dans les quartiers. Oui, les gens sont en colère, mais surtout, la colère, elle n'est pas évoquée dans les tribunaux parce qu'on dit qu'il ne faut pas parler du contexte et les procureurs mettent leur point d'honneur à faire le procès des violences policières sans jamais... le procès des violences, pas des violences policières, sans jamais parler des violences policières, justement. Et du coup, on se retrouve face à, des, par exemple, des jeunes de 18 ans qui n'ont pas de casier, qui prennent des 6 mois de sursis, ou des jeunes qui avaient déjà un truc sur leur casier, qui prennent du 6 mois ferme, pour avoir peut-être, pour l'hypothèse qu'ils auraient pu participer par la suite à une soi-disant émeute, parce qu'il y en a une dans la soirée, mais ils se sont fait interpeller avant. Voilà. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais entendre.
Vous, avec le collectif, là, vous essayez de faire en sorte que les personnes qui passent en comparution immédiate, ils puissent avoir accès à un autre avocat que l'avocat qui avait commis d'office, en fait ?
Alors, il y a ça, mais il y a aussi... En fait, le truc, c'est que ça dépend des situations. En fait, en général, on ne sait pas du tout ce qui va passer parce qu'en fait, le tribunal a une nouvelle stratégie qui est que, de toute façon, le deux poids, deux mesures, elle est très, très claire. Et déjà, la différence entre des petits quartiers qui sont jugés et des militants, ça n'a absolument rien à voir. Et on peut le voir aussi parce que les avocats eux-mêmes sont super choqués parce qu'il y a des avocats qui ont défendu des gens pendant le mouvement social et qui se retrouvent face à des choses beaucoup moins graves, qui sont beaucoup plus sévères, en fait, et où les punitions, entre guillemets, sont absolument hallucinantes.
Donc il y a une différence de traitement.
Pardon ?
Il y a une différence de traitement des juges.
Ah mais clairement, laisse tomber. Et il y a aussi une différence de traitement dans le sens où, par exemple, on sait que les jours où le syndicat de la magistrature est présent, il n'y a pas de comparution immédiate pour les petits. Enfin, pas pour ces petits-là, pas par rapport aux révoltes en cours, en fait. Et que, par exemple, vendredi, ils ont tout annulé. expliquer, et on m'a su par des gens du syndicat de la magistrature, bruit de couloir, etc., que, et ben, bizarrement, les avocats mis en cause dans l'histoire de Théo, les avocats, pardon, je suis désolée, je suis speed, les policiers mis en cause dans l'histoire de Théo, en fait, ils ont été jugés pendant le week-end et par des magistrats qui ne sont pas des magistrats liés au syndicat de la magistrature, parce que sinon ça ne serait absolument pas passé comme ça.
Ah, attends, donc, là ils ont été jugés en fait, t'es en train de dire, du coup ?
Comment ?
Les CAF ont été jugés en fait.
Bah en fait ils sont passés, en gros ils ont là actuellement ils sont libres.
Ouais.
Ils sont libres parce que c'est en attente et que pour l'instant ils sont en liberté en attente de jugement. Mais
ah,
en
d'accord,
gros, ils
okay.
sont passés en comparution immédiate comme tous les petits. Ouais. Tous nos petits partent en prison, ils sont en maison d'arrêt 3-4 jours en attendant d'être jugés, voire plus, parce que là, laisse tomber les renvois et compagnie. Mais parce que la plupart des jeunes qui passent en comparution immédiate, ils n'ont pas les garanties, etc. Mmh. Et du coup, on se retrouve face à une situation complètement dingue, qui est que ce qui s'est passé pour Théo, on sait très bien ce qui s'est passé, et c'est pas que pour Théo, et les gens, leur colère, elle est légitime, et surtout, en fait, Théo, c'est un révélateur, c'est horrible, mais c'est qu'un révélateur de ce qui se passe tous les jours dans les quartiers, et on se retrouve face à une situation où... les keufs qui se sont fait prendre alors qu'il y a une vidéo, alors qu'il y a tout ça, alors qu'il y a les témoignages, etc., eux ils sont dehors.
Présomption d'innocence.
En fait, ils se rendent compte quelque part, et des fois c'est pour ça qu'il n'y a aucune comparution, que les jours où c'est chaud, comme aujourd'hui où il y avait juste un appel sur les réseaux sociaux qui appelait à se rassembler au TGI, que du coup il y a un hélico qui a tourné toute la journée, il y avait des keufs partout et toutes les comparutions immédiates ont été annulées. Donc je vous laisse imaginer la semaine prochaine au TGI, ça va être trop la guerre.
Ouais.
Voilà.
Et aussi, c'est révélateur des mensonges que fabriquent les keufs, en fait, cette histoire, l'histoire de Théo.
Bah, c'est révélateur de l'histoire qui se passe à chaque fois, étant donné qu'il n'y a qu'eux qui ont la parole et que tout le monde les défend, alors que les autres, on ne fait que les diaboliser, mais qu'on ne les laisse jamais parler. Enfin, même les gens qui, par exemple, sont passés en jugement pour avoir prononcé des mots, parce que ça arrive, on les accuse de racisme anti-blanc, on les accuse de tout et n'importe quoi, en disant qu'ils n'ont pas à parler mal de la police, alors que ce que ces gens-là disent, c'est que tous les jours, ils subissent ça, que tous les jours, ils sont contrôlés 5 fois par jour, que tous les jours, les gars, ils les tutoient, ils les prennent pour je sais pas qui, ils les maltraitent et compagnie, et que l'histoire de Théo, c'est l'histoire de trop, point barre, que c'est un révélateur, que c'est un truc en trop qui se passe et qui énerve tout le monde. Mais comme tout le monde est super vénère, et tout le monde n'est pas forcément au courant, mais tout le monde est super vénère de toutes les morts de la police qui ont pu avoir lieu, mais depuis 30 ans. C'est juste qu'on n'a tellement pas l'info que, bah, par exemple, Adama, elle s'est un peu plus transférée dans les médias, donc il y a plus de gens qui sont au courant, mais il y a eu Amine Bentoussi, mais il y a eu tellement de monde, en fait, il y a eu Lamine Dieng, il y a eu trop de monde qui est déjà mort à cause des clés d'étranglement, etc. Et le vrai problème, c'est cette impunité policière et ce qui se passe tous les jours dans les quartiers, ce qu'ils se permettent de faire et ce permis de tuer qu'ils ont. Et ça, personne ne le remet en question. Et c'est absolument hallucinant, du coup, de voir comment ils prennent cher les petits. Parce qu'en vrai, c'est des petits.
Ouais, de la chair à tribunaux, de la chair à prison.
Et du coup, au niveau du contexte, on a un peu parlé tout à l'heure, là, même au niveau de... les interpellations dans les comptes rendus qu'on a pu lire, déjà rien que là ça commence comme ça au niveau de l'interpellation, comment les jeunes qui sont arrêtés, ils sont interpellés quoi, au hasard, n'importe comment,
les jeunes ils sont interpellés au hasard, c'est ceux qui traînent, donc en général c'est pas ceux qui sont organisés et qui sont démortiers, donc c'est tous les petits en bas et la moitié c'est des mineurs, et en plus Ils leur pètent leur téléphone, ils les laissent pas appeler quand ils sont en garde à vue. Les familles, on n'arrête pas de recevoir des familles au tribunal qui sont en larmes, qui sont en panique. Ça fait 48 heures, elles n'ont pas de nouvelles de leur jeune majeur qui a 18 ans et ils ne savent pas où ils ont dormi, ils ne savent pas où il est. Ils ont appelé tous les hôpitaux de l'Île-de-France, elles sont en panique. Mmh. Et en fait, bah, elles passent pour avoir peut-être eu dans les mains une pierre, ou peut-être parce qu'ils étaient à côté d'une brouette où il y avait des pierres et où il y aurait pu y avoir, ou enfin que des suppositions. Et clairement, le truc est très très choquant avant ce qui se passe. C'est qu'ils sont en train d'appliquer des espèces de... Bah, comme ce qu'il y avait eu dans les lois antiterroristes, en fait. De juger les gens avant qu'ils aient fait les actes.
Mmh, ouais.
Donc, du coup, tout le monde est potentiellement un super caillasseur de keuf, un lanceur de mortier, un lanceur de cocktail molotov, un mec qui brûle des voitures, tout et n'importe quoi. Parce que, en fait, c'est supposé, tu viens de ce quartier et t'as 18 ans, bon, ça veut dire que t'allais faire. Mmh. Ça veut dire quoi, ça ? En fait, c'est juste qu'il y a des citoyens de seconde zone, en fait.
Mais du coup, toutes les audiences là que vous avez vues, en fait, elles se ressemblent. À chaque fois, c'est la même chose, c'est juste une personne différente à chaque fois, mais sinon, les délits, c'est les mêmes.
Des fois, ils passent par 5, hein.
Ouais.
Non, mais des fois, c'est des blagues. Les trucs, c'est des blagues. C'est absolument horrible, parce qu'en vrai, quand tu assistes à un procès, bah, t'es spectateur. C'est une espèce d'une grande mascarade, là. Mmh. Et en vrai, bah, les communautistes, des fois, ils ne sont pas trop mal, ils font ce qu'ils peuvent. Des fois, c'est absolument n'importe quoi. Et ouais, et c'est la boucherie, en fait. Enfin, on se rend compte qu'il y a des scènes exemplaires, en fait. C'est pour l'exemple. C'est pour dire aux gens de se calmer. Et le truc qu'ils comprennent pas, c'est que c'est tellement injuste que, par exemple, le soir où il y a deux petits compris 6 mois ferme et 3 autres compris 6 mois de sûreté, alors que c'est que des suppositions, il y a deux voitures qui ont brûlé 5 minutes après se délibérer dans Bobigny, en fait. Mais c'est logique. Enfin, en fait, c'est eux qui attisent la merde et ils ont foutu le feu, ils jouent aux pompiers, en fait.
Et les avocats, là-dedans, ils participent de rien. Enfin, ils ont... Les avocats commis d'office, j'imagine qu'ils ont pas non plus une grande utilité là-dedans, quoi.
Bah, les avocats comme de plus, il y en a qui sont pas trop mal. Enfin, moi, je vais pas leur lancer la pierre des fois, parce qu'en vrai, ils sont face à des juges et des procureurs qui sont particulièrement sur les dents. Des fois, ils font ce qu'ils peuvent, mais il faut quand même se rendre compte que des fois, 10 minutes avant la procès, ils n'ont pas encore eu le dossier dans les mains,
ouais.
Ça va être le même comité d'office qui est de permanence pour tous les cas qui commencent à 13h et qui finissent à 22h, et qu'ils doivent défendre à toutes les familles. Et du coup, c'est la boucherie. Franchement, c'est la boucherie, c'est à l'abattage. Et voilà. Et des familles entières qui sont broyées. Il y en a qui ont payé des avocats qui ont complètement défoncé leur budget et qui nous appellent pour payer leur facture EDF après parce qu'en fait ils ont fait un charlatan et que leur gamin il part en taux quand même. Enfin, mais là ça concerne vraiment des cinquantaines, bientôt des centaines de familles. Et en vrai, par exemple, la cagnotte est en ligne, enfin, on a besoin d'aide s'il vous plaît.
Et du coup, tu.
Vrai, ouais, si tu peux dire comment on fait.
Pas grand chose. Donc il y a une cagnotte en ligne sur un wiki qui s'appelle, je sais pas, vous avez pas ça sous l'œil là. Genre,
attends, je vais chercher.
Aux inculpés du 93 et à leur famille, je crois que c'est ça. Il y a un article cartelique qui s'intitule tout comme ça, et ça a été partagé aussi sur la page Facebook de Nos Passaran Paris. Faut que ça tourne. Il y a déjà 2000 balles dessus, c'est super bien, mais on a besoin de beaucoup plus d'aide que ça à la famille. En vrai, il y a trop de monde qui est concerné, et là c'est une machine à broyer, laisse tomber.
On le relaiera sur les sites d'infos locales à Saint-Thé et à Lyon, du coup, pour ça.
Okay.
Et du coup, est-ce que t'as d'autres choses à dire sur ces comparutions immédiates là pour les jours qui viennent, un appel à faire ou
Très concrètement, le truc c'est que nous on est écartelés. Là on n'est pas assez parce qu'en fait ça concerne plus que le PDI de l'Union. En fait, là, ça commence à péter partout, dans le sens où c'est parti de Olina et compagnie, et ça concernait tout le monde après. Mais maintenant, on est face à une situation où il y a le tribunal de procès qui est concerné aussi, parce qu'on a le 91, le 92, le 93, le 94, le 78, le 77, et compagnie. En vrai, c'est en train de partir en cacahuète. Je ne suis pas plus mal, mais ce n'est que mon avis. Mais enfin, moi, je comprends très bien pourquoi ils sont énervés, en tout cas, ces jeunes-là, et pourquoi il n'y a que ça qu'on parle d'eux, et ça, c'est une réalité des médias. Et du coup, bah, en fait, il faudrait être beaucoup plus. Il y a des gens qui sont chauds. En vrai, envoyez des messages privés, même sur la page de quartier libre, si vous voulez, ou envoyez un message sur la cagnotte. Dites que vous êtes chaud pour faire des permanences, pour aider les gens. On a des docs à filer aux gens. En fait, là, il y a beaucoup de... Comment dire, de pédagogie juridique à faire en fait, parce que les familles elles sont jamais passées devant la justice, et en fait les familles des fois elles posent pas du tout de questions parce qu'elles ont l'impression que c'est comme ça et pas autrement, et qu'il faut baisser la tête, et du coup l'impunité elle est trop à l'aise, elle est tellement à l'aise qu'ils font tout ce qu'ils veulent, et c'est quand même très très grave que des jeunes de 18 ans voire des mineurs qui sont interpellés ils puissent pas avoir droit à un appel. En fait, il y a des familles qu'on retrouve en miettes. Il y a des gens qui nous disent qu'ils veulent se jeter sous le tram. Enfin, on est face à des situations ultra, ultra, ultra dramatiques. Et c'est eux qui font ça. Et c'est hallucinant. Enfin,
et ça arrive à passer. Vous arrivez justement à organiser un peu ce genre de choses-là. Arriver à faire passer des tuyaux un peu pour comment s'organiser ou comment réagir quand on est en garde à vue ou... Les petits trucs un peu qu'on peut mettre en place quand on est dans des situations comme ça, quoi. Genre par exemple le refus, typiquement le refus de la comparution immédiate.
On t'a pas entendu.
La plupart des... Quoi ?
On t'a pas entendu.
Ok. Bon, une réalité quand même, c'est pas pour jacter et tout, tu vois, c'est très très bien tous les documents que les militants font et tout, mais les trucs avec plein de mots juridiques et des 8 pages à lire et compagnie, la plupart des petits qui sont énervés, ils aiment pas lire en fait. Et il n'y a rien de mieux que rencontrer les gens, les respecter. Et il y a un truc aussi que j'aimerais dire, et ça c'est vraiment un appel à tout le monde et à tous les gens qui passent dans les TGI à des moments en tant que soutien, etc. C'est qu'il y a des gens vraiment qui attisent la merde. Il y a des gens qui viennent au TGI pour chauffer les petits et qui foutent la merde et qui se fassent virer du tribunal. Et c'est n'importe quoi parce que, en fait, il y a des familles. Il y a des familles qui sont en face, il y a des familles qui nous font confiance. On arrive à construire des choses ensemble, on arrive à créer des défenses, à créer des renvois, à faire en sorte que les gens soient suivis, qu'on ne trouve pas en galère et tout ça. Et il y a Pierre-Paul Jacques là qui s'incruste et qui dit qu'ils vont sauver le monde et qui essaye de refaire une émeute dans le tribunal. Et ben va t'amuser ailleurs, c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, si t'as que ça à faire, va t'amuser ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui foutent la merde vraiment en croyant qu'on va changer le monde dans un tribunal. En fait, là, les petits, c'est de la faire aboyer. Ils passent là-dedans, ils risquent de passer 6 mois, 1 an en tôle. Et surtout, le truc qu'il faut se rendre compte, et c'est une vraie réalité, c'est que ces jeunes, ils ont des noms qui sont cramés en mode dans la caricature des Arabes et des Noirs. C'est des mecs de parti qui ont un 93% sur leur corps social. S'ils ont un casier judiciaire, ils n'en trouveront jamais du travail. Et on a des familles qui nous disent « Mon gamin, il prend, c'est pas du terme, s'il prend du sursis, il a un truc sur son casier judiciaire, on sait qu'il va finir dans la délinquance. Donc venez pas vous plaindre après. En fait, venez pas vous plaindre. C'est eux qui créent ce genre de situation. Et donc, s'il vous plaît, les soutiens, soyez des vrais soutiens, parlez avec les gens, respectez-les. Et puis là, on pourra peut-être parler d'infos juridiques et compagnie. Voilà. Excusez-moi, mais ça m'énerve beaucoup, en fait. Les gens qui viennent faire la messe, c'est la merde de tribunal, je trouve ça à la limite marron. Voilà.
Du coup, ok, et ben, je pense que le message là, il est bien passé et c'est clair et t'as bien raison de dire ça en fait. Et ça remet aussi, je pense, voilà, deux, trois. Ça peut remettre des comportements aussi à leur place, quoi. Donc c'est plutôt.
Si tu peux me permettre.
Et ça évite de fantasmer aussi certaines choses, quoi.
Oui, et puis il y a aussi le fait que. Chers camarades qui vous rassemblez dans le centre-ville et qui refaites des émeutes dans le centre-ville, mais qui ne vivez pas, ou qui allez à des endroits pour croire que ça va péter et pour faire en sorte que ça pète, si vous n'êtes pas habitant, vous n'habitez pas là, cassez pas. C'est pas une leçon de morale, c'est juste que là, il s'est passé des choses dernièrement où il y a des gens qui ont essayé de prendre la parole, mais où il y a tout qu'à brûler, on a parlé que juste. Et c'est quand même très dommage. Et je pense qu'il y a des personnes dans les milieux militants qui ne se rendent pas compte. En fait, ils ont un joli discours, mais déjà, ils ne considèrent pas que les classes sociales existent, ils ne considèrent pas que l'identité existe, et il serait peut-être mieux d'aller à la campagne, et c'est pas d'aller des gazons...
À la mer, tu veux dire.
Non, mais juste, c'est un appel très clair, s'il vous plaît, dans les centres-villes, faites entendre des voix, mais si vous voulez tout casser, respectez aussi les gens qui prennent le bus, et quand tout casse leur abri bus, c'est eux qui posent sous la pluie, en fait. Il y a peut-être des petites choses à frapper. Voilà.
Bah en tout cas, juste pour te dire, hier il y a une manif dans le centre-ville de Saint-Étienne. Je ne sais pas si tu as entendu. Et en fait, il y avait quand même
beaucoup de monde.
Et voilà, et des gens assez différents, des gens qui ont des cinquantenaires avec des pancartes. Il y en a marre des policiers barbares. Enfin voilà, et qui chantaient. Enfin des slogans assez intelligents. Donc c'était plutôt chouette à voir, quoi. Donc voilà, après évidemment il n'y a pas que ça à faire et le truc c'est vraiment comme tu le disais, Théo, Adama, c'est pas des histoires isolées, c'est le quotidien de beaucoup de familles, beaucoup de gens et que c'est hyper important au moins déjà de se tenir au courant, d'y réfléchir et de voir aussi comment il est possible de se solidariser intelligemment, quoi.
C'est ça, la violence elle est structurelle, faut pas oublier en fait, c'est pas une histoire d'être contre les flics ou pas, c'est qu'aujourd'hui les caisses ils ont permis de tirer le point, et là ça passe à l'Assemblée Nationale, et ça risque d'être officiel, ils vont pouvoir tirer dans le dos quand ils sont menacés au calme. Donc peut-être que ça serait bien qu'on se penche sur les vraies questions, et sur à quel point il y a toujours une chance de la population qui manque pour tout le monde. Donc voilà.
Et surtout de la police à la prison, les comparutions immédiates, c'est le pas.
Très clairement, enfin, et c'est ça qui était super marrant, par exemple, aux comparutions immédiates, c'est qu'on a des petits devant la vie, dans le box, sortent, mais madame, vos collègues m'ont interpellé. En fait, tout le monde déteste la police, mais tout le monde déteste la justice, c'est la même chose. c'est la même chose, c'est un système, ça va ensemble. Bien sûr, tout le monde déteste la justice, vous êtes fous, quoi.
Ouais, et surtout bah, que les mensonges de la police, les violences de la police sont aussi les mensonges et les, dans la continuité, les mensonges et les violences des matons, et ça, on va continuer aussi l'émission là-dessus, quoi. Mais en tout cas, voilà, bah, merci d'avoir bien voulu... Enfin, il y avait peut-être quelqu'un qui voulait parler, pardon.
Merci à vous.
Oui, bah, bah, merci, merci Casco, et à merci. Plus, et bon courage oui. Et pour tout le monde. Voilà.
On se fait encore un.
Salut.
Ciao. Du coup, juste, je rappelle la caisse dont elle a parlé pour en solidarité avec les familles là, qui lèchent des thunes pour les avocats. Donc, c'est sur litchi, litchi.com et c'est. Solidarité avec les inculpés du 93 et leur famille. Voilà, donc ça c'est pour participer aux frais d'avocat, etc. Voilà.
Direct.
On passe à un morceau vite fait ou on enchaîne direct
sur la légitime défense.
On enchaîne direct avec la légitime Allez. Défense et c'est parti. Et bah du coup, ouais, vu qu'on en parlait juste à l'instant et la personne qu'on avait au téléphone, elle en parlait aussi. C'est passé hier à l'Assemblée nationale et aujourd'hui au Sénat. C'était une loi donc qui avait été proposée fin décembre en Conseil des ministres par. Donc par Valls et Cazeneuve, et c'était suite aux manifestations de keufs qu'il y a eu à l'automne dernier. Donc c'était tout un tas de manifestations, donc des flics pas syndiqués, donc des manifestations de nuit souvent, les flics armés, etc. À la base, c'était en réaction à une agression de flics qu'il y avait eu dans l'Essonne. Il s'était fait un groupe de flics qui s'était fait attaquer au cocktail Molotov, je crois bien. Et donc à ce moment-là, les flics réclamaient du coup plus de moyens, plus de grosses missions et un assouplissement des conditions de tir en fait. Et du coup un assouplissement des conditions d'application de la légitime défense. Donc du coup c'était pour faire un petit point sur ce que c'est que la légitime défense. La légitime défense dans la loi française, c'est une exception juridique qui permet, c'est un truc qu'on peut invoquer au tribunal et qui permet de dire que on n'est pas responsable. De se dégager de la responsabilité de l'action qu'on a faite. Et donc c'est un moyen qui permet de dire qu'on a réagi de manière proportionnée et sur l'instant à quelque chose qui a une attaque qui nous mettait en danger de mort. Donc ça c'est ce qui se passe dans la loi française, c'est que la légitime défense c'est la même pour les flics et pour les civils jusqu'à maintenant. Et ce que la police demandait là dernièrement, c'était un cadre légal d'application. En fait, ils demandent en gros que ça soit inscrit dans la loi de dans quelle mesure ils ont le droit d'utiliser leurs armes. Et donc là, en question, c'est pas les armes non létales, il s'agit bien de leurs flingues. Donc bon, déjà qu'ils avaient tout un tas de conditions qui faisaient que dans les tribunaux ils étaient rarement condamnés, bah là du coup ça va être inscrit dans la loi qu'ils ont clairement un permis de tuer. La différence, ouais, il y avait aussi ce truc là de la différence qu'il y avait entre les policiers et les gendarmes, sachant que les gendarmes, vu que c'est des militaires, ils avaient déjà un cadre légal pour pouvoir utiliser leurs armes. Donc ça c'était en cas de soit des violences directes sur eux, soit si il y avait une personne en voiture et dangereuse qui forçait un barrage de la gendarmerie, soit ça a été rajouté l'année dernière suite à l'état d'urgence, soit si ils étaient en face d'un terroriste en fuite, ils avaient le droit d'utiliser leurs armes. Et donc ce que les flics ont réclamé par le biais de leurs manifestations et de leurs syndicats, etc., c'était un genre d'alignement sur la législation qui encadrait l'utilisage des armes des gendarmes. Donc en gros, là, il n'y aura plus vraiment de différence entre la police et la gendarmerie. Déjà qu'il n'y en avait plus vraiment, mais là, il n'y en aura plus du tout. Et donc, aujourd'hui, ce qui a été finalement adopté au Sénat, c'est une loi qui comporte en fait plein de choses différentes, mais c'est... Donc la loi, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est un truc de machin sécurité publique, quelque chose comme ça. Et en gros, donc ça a été accepté que les flics finissent par avoir donc les mêmes conditions d'utilisation de leurs armes que les gendarmes, c'est-à-dire en cas d'attaque directe sur eux, s'il y a un détenu qui tente de leur échapper, s'il y a une voiture qui tente de forcer un de leurs barrages, Et c'était quoi? Et si aussi, je crois que c'était si ils n'arrivent pas à défendre une zone qui est en train d'être attaquée. Donc là, l'exemple qui était en question, c'était s'il y a des gens qui essayent d'attaquer un commissariat, un commissariat quoi. Et donc cette loi, a priori, ça j'ai pas réussi à voir tous les détails, mais a priori, elle va être aussi appliquée donc pour les policiers municipaux. Donc ça, c'est dans le prolongement du flou qui mélange la police nationale, la police municipale, etc. Donc ça, on avait vu il y a pas longtemps, il y a quelques temps que donc, les flics municipaux pouvaient être armés. Et aussi le reste du contenu de la loi, c'est que ils ont rajouté plein de petits trucs. C'est un peu la loi fourre-tout, quoi. C'est que les peines pour outrage, elles sont doublées. Les enquêteurs dans les enquêtes un peu tendues, difficiles, ils peuvent être, ils ont l'anonymat. Et un dernier truc qui avait été suspendu par le Conseil constitutionnel la semaine dernière, c'est qu'ils ont rajouté le délit de consultation habituelle de sites djihadistes. Donc ça mélange un peu tout, mais concrètement. Ben, les flics ont obtenu ce qu'ils voulaient en automne dernier. Mmh. Donc, comme quoi, manifester masqué et de nuit et armé, a priori, ça amène à ça. Voilà.
Les milices, là. Les milices de FAF, là.
Plein de bonnes nouvelles.
Ouais. Ouais, c'est...
Non, je t'en prie, pardon.
Non, vas-y.
Non, vas-y.
Oh, on fait une petite pause.
Ouais, on fait une petite pause.
Bon, alors c'est un morceau, c'est un classique hein, qui date de 1993. Voilà, c'est le morceau Police de NTM, et c'est juste pour nous rappeler, c'est ce qu'on se disait en préparant l'émission tout à l'heure. Et justement, bah voilà, tout le contexte actuel nous le montre, c'est que malgré le discours médiatique ambiant qui essaye de faire passer cet événement, l'événement de Théo, voire l'événement d'Adama pour des actes isolés. Et des bavures, le terme de bavure qui revient, où c'est un policier un peu un chien fou au milieu de la police égaré, et bah qui montre que non, bah justement déjà ça existait et il y avait déjà des groupes qui faisaient des morceaux là-dessus en 93, voire même depuis que la police existe, il y a des chansons contre la police qui montrent que ça fait partie d'un système et c'est pas des actes isolés, voilà.
On s'en prend un tiroir dans un placard, ils vont l'arranger. Car l'ordre vient d'en haut. nique la police.
Et voilà, toujours à l'écoute de l'émission Papillon sur Radio Duo. Donc on va donner des nouvelles maintenant de Rachid Boubala, dont on a souvent parlé ici. Pardon, j'ai oublié de mettre les micros, voilà, c'est mieux.
Oui, du coup, donc Rachid, on en a parlé plusieurs fois à cette antenne. Donc c'est un prisonnier longue peine et en fait il était dans la prise d'otage qu'on pourrait appeler prise de parole de Condé-sur-Sarthe avec Fabrice Borromée dont on a parlé la dernière fois à l'antenne. Donc c'est deux prisonniers longue peine qui face à leur à l'impasse dans laquelle ils se trouvent et l'isolement dans lequel ils se trouvent, leur seule arme, la seule manière de se faire entendre, c'est des prises d'otages et pour réclamer par exemple un rapprochement familial, en l'occurrence en Guadeloupe pour Fabrice Borromée et à l'époque pour Rachid auprès de sa compagne à Clairvaux. Donc suite à cette prise d'otage, Rachid avait été transféré à la centrale de Saint-Martin-de-Ré où il avait été accueilli par les surveillants pénitentiaires d'une manière pas tout à fait agréable, pour le dire très avec des formes, et il avait dû se confronter surtout à la vindique en fait des surveillants organisés en syndicat, donc c'est EFO pénitentiaire en l'occurrence.
Alors juste un petit rappel, pour recontextualiser, Rachid, c'est quelqu'un qui est rentré pour une peine de quelques mois et qui a maintenant à plus de 38 ans à faire, juste pour des trucs qui sont passés à l'intérieur, quoi. Donc des outrages, des violences à surveillants, etc., etc.
Voilà. Et du coup, donc ce soir, on a Marie Créteneau de l'OIP. Allô ?
Bonjour. Oui,
bonsoir. vous nous entendez bien ?
Oui.
Ok,
oui.
Parfait. Eh ben, merci d'être avec nous à l'antenne ce soir, parce que du coup, vous suivez le parcours de Rachid notamment sur cette affaire de tract qui a pondu le syndicat FO pénitentiaire lorsqu'il était à Saint-Martin-de-Ré. Et ce tract était intitulé « Prime à la vermine et à la racaille ». Voilà. Donc est-ce que vous pouvez nous préciser un peu plus le contenu de ce tract et nous expliquer en quoi il était indispensable du coup de porter plainte contre FO pénitentiaire.
Le tract en fait faisait suite à la décision du directeur en fait de Saint-Martin-de-Ré qui a choisi d'avoir une autre approche que celle qui est généralement prise à l'égard de Rachid, qui est, en général c'est isolement et aucune activité. Là finalement il avait décidé de lui accorder un poste de travail, ce qui est déjà arrivé parfois dans le passé. Le poste de travail, ça consistait à repeindre les murs de certaines cellules ou locaux du quartier de l'isolement. Et comme ça faisait suite aussi, quelques mois plus tôt, à une prise d'otage qui avait eu lieu à Condé-sur-Sarthe, où Rachid était impliqué, ça a énervé les personnels et les syndicats, et donc du coup ils ont fait un tract. Donc prime à la vermine à la racaille, c'était l'octroi de ce poste-là, avec en plus son nom. Une partie d'infos personnelles sur lui et quelques éléments un peu faux.
Donc pour les surveillants, avoir ce poste et donc repeindre un quartier d'isolement, c'est un privilège en fait.
C'est ça, et un privilège intolérable. Rien n'était considéré comme un droit, mais en plus, voilà, c'était comme si on récompensait en fait son comportement. Alors qu'il avait quand même été condamné à 8 ans de prison pour les faits de Condé-sur-Sarthe, et que par ailleurs il en est à quasiment une centaine de transferts et un quotidien qui est fait de quartiers d'isolement et de quartiers disciplinaires.
Parce que quand Rachid, du coup, est accueilli dans une... est transféré dans une nouvelle prison, à chaque fois, il y a des surveillants quand même qui l'attendent au passage.
Oui, alors il est connu. Et les réactions syndicales, elles sont extrêmement courantes. Là, la particularité, c'est qu'on avait un tract nominatif et particulièrement injurieux. Après, ce syndicat-là, c'est un peu sa méthode de communication classique. Hein. C'est-à-dire que d'habitude, il ne donne pas les noms, mais la qualification des personnes détenues, ça peut être vermine aussi, ça peut être racaille, voyou, etc. Enfin, il y a à peu près tout le registre. Et dans ce cas-là, c'était à la fois... le tract était donc là particulièrement injurieux, mais c'était aussi donc pour une fois de permettre à Rachid de faire valoir ses droits là-dessus, parce que des injures, il en connaît aussi, quoi. Enfin, mais là, qui sont oralement et où il n'y a pas de traces. Et puis de mettre en accusation, enfin, ce type de communication de FO qui est légion, quoi. Après, c'est pas le seul syndicat, hein, enfin. L'UFAP fait à peu près la même chose, et localement on peut voir aussi la CGT qui commence à utiliser ce registre-là.
D'accord. Et le SPS aussi.
Ouais. Syndicat bien à droite.
Ah oui, SPS, oui. Ouais. Oui. Non, oui, là c'est oui. Marque de fabrique aussi. Oui.
Ouais.
Ils sont un peu moins représentatifs, sont un peu moins nombreux, mais oui.
Donc au-delà, voilà, c'est une pratique courante de la part des surveillants qui soi-disant sont soucieux, hein, quand on voit la communication institutionnelle de l'administration pénitentiaire, qui sont soucieux, hein, de la réinsertion sociale, et c'est ce qu'ils aiment bien mettre en avant. Mais bon, là, on voit bien que c'est pas du tout ça, la réalité. Et dans ce tract, justement, il y a plusieurs revendications de la part de FO. Donc, il y a la suspension de son classement d'oxypeinte, comme quoi c'est évidemment un privilège. Il y a la prise en compte, il parle de prise en compte de la dangerosité du prisonnier, donc de Rachid, de sa dangerosité. Donc là, il demande des mesures, en gros, sécuritaires.
Bah là, on voit pas ce qu'il peut y avoir de plus. Il est en centrale et au quartier d'isolement.
Donc, qu'est-ce que vous pouvez du coup en dire de l'isolement en maison centrale, pour bien expliquer que c'est le bout du bout, quoi.
Oui. Bah, bon, déjà, les maisons centrales, on est dans des établissements donc extrêmement sécurisés. Mais là, l'isolement, c'est un isolement total. Donc, Rachid peut croiser normalement aucune autre personne que finalement le personnel. Accès à rien en termes d'activité, hein, donc au quotidien c'est vraiment le rien, quoi. Enfin, être en cellule en permanence et d'avoir une heure de promenade, ouais, parfois plus.
Donc ça, dans un temps complètement nu, quoi.
Et puis ça depuis des années et des années, en plus.
Là on est, ouais, il cumule les années d'isolement. Là ça fait un peu plus de 20 ans qu'il est en prison. L'isolement est arrivé relativement vite. Avec des périodes d'interruption, mais et à ça il faut rajouter que quand il n'est pas à l'isolement, généralement il est au quartier disciplinaire, donc là où c'est du mobilier, enfin c'est comme en isolement, du mobilier scellé et quasiment aucune ouverture sur l'extérieur, du barandage, des caillebottines, des...
Et autre isolement pour lui, donc il y avait aussi dans la troisième revendication du tract, c'était l'obligation de soins.
Oui, alors ça, mais bon, ça rejoint l'autre, c'est que finalement, Rachid, son comportement n'est vu que comme, pour les syndicats et les personnels, ou une partie des personnels, vu que comme l'expression d'une folie, quoi. Parce que bon, ça, on n'en a pas parlé, mais c'est depuis quelques années, sa manière aussi de s'opposer à l'administration et au traitement qui lui est fait, c'est de maculer en fait le sas de la cellule avec ses excréments. Il fait des projections. Donc il est maintenu dans ces types de conditions-là parce qu'une des techniques aussi pour le faire céder, c'est de ne pas nettoyer ou de mettre de la litière, etc. Et donc comme c'est insupportable pour lui, même s'il se l'inflige, c'est, on peut comprendre que ce soit aussi quand même relativement insupportable pour les personnels. Mais il n'y a aucune interrogation sur le pourquoi. Et tout n'est vu que comme s'il relevait d'établissement psychiatrique, ce qui n'est pas le cas. Il n'a aucune pathologie mentale. Il y a eu quelques passages en unité de soins, en unité... Enfin, c'était c'était des unités pour malades difficiles, où ce qui était relevé, c'est que donc aucune pathologie mentale, et surtout quand il est sorti du milieu pénitentiaire, il a plus du tout le même comportement. Tout d'un coup, il se remet, cette opposition permanente s'arrête et il peut avoir des rapports sociaux tout à fait normaux. Quoi.
Donc c'est un vrai résistant en soi.
C'est ça, ouais, c'est sa manière de résister à lui. Qui lui, c'est avec un effet paradoxal, enfin, c'est que il y a ça, il y avait eu quelques temps des feux de cellules. L'effet paradoxal, c'est que c'est sa manière de résister à l'institution et que finalement, vu les réponses pénitentiaires et judiciaires, c'est des peines à la clé et sa situation se prolonge.
Et là, on en est à combien d'années de prison qui lui, enfin, l'horizon de sa sortie, il aura quel âge ?
Il aura pas loin de 60 ans, il est rentré à 19 ans. On aura finalement une peine quasiment de 50 ans. Et là, c'est l'absurdité aussi totale du système, parce qu'on se retrouve avec presque des détentions plus longues pour des personnes potentiellement condamnées à la perpétuité, ou à la perpétuité, on peut sortir avant. Lui, avant 50 ans. Lui, finalement, tout est bouché juridiquement. En fait, c'est impossible de revenir sur ces peines qui s'accumulent, quoi. Par le biais d'un aménagement de peine, etc. Enfin, pour l'instant, c'est pas. La peine est tellement longue que l'horizon est extrêmement lointain pour que ça puisse être enclenché.
Et donc, c'est complètement abyssal, hein, et absurde et ubuesque.
Mmh. Complètement délirant. Mais finalement, tout le monde maintient ce système-là tranquillement, quoi.
Et les le syndicat FO, pour ce tract en tout cas, donc qui trouve que Rachid quand même est privilégié, hein, dans ça, mm-hmm. Voilà. Là, donc, ils ont été condamnés.
Oui, ils ont été condamnés donc à, enfin, une amende de 1000 euros de mémoire, et il y a 2000 euros de dommages et intérêts.
On pourrait, c'est rien. Finalement, c'est rien.
C'est à la fois rien, mais c'est pas, oui, bien sûr, c'est pas grand chose, mais là on est sur un, c'est le directeur de publication, hein, qui a été condamné c'est pour une action syndicale finalement. Mm-hmm. Ça pouvait pas aller bien plus loin, mm-hmm. ça.
Dans ces cas-là, le directeur de publication, c'est quoi ? C'est le délégué du personnel
C'est le je sais plus comment il s'appelle, le secrétaire général.
Secrétaire général. Mm. D'accord.
Qui est condamné, du coup, à titre personnel.
Ok.
Voilà, c'est pas grand-chose, mais les condamnations sont. Ils en avaient déjà eu. Après, la question, c'est de savoir si ça va influer, en fait, sur leur méthode de communication. Parce qu'au moment de l'audience, tout ce qu'ils mettaient en avant, c'est que c'est leur manière de communiquer, qu'il faut taper fort et qu'il ne faut pas cracher de le prendre mal, ça n'a rien à voir.
Donc
que,
taper en fait, fort pourquoi ?
S'adresse à la chancellerie. Quoi.
Taper fort pourquoi ? C'est quoi leur raison ?
Pour faire prendre conscience au ministère et à la DAP de la situation intolérable en termes de sécurité, etc.
Alors, en termes de sécurité, donc il y a un nouveau classement pénitentiaire, les surveillants sont armés, il y a des nouveaux marchés qui ont été signés, ils ont encore plus d'armes.
Là, ça va, en termes de sécurité, ils sont servis. Hein. Enfin, là, c'était même avec les dernières lois. Enfin,
Ils peuvent faire condamner des prisonniers à l'intérieur pour la moindre chose, parce que la parole d'un prisonnier vaudra toujours celle moins que celle d'un surveillant. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus, en fait ?
Alors, ce qu'ils veulent, c'est une classification des établissements.
C'est quoi ? Comment ?
Une classification des établissements, c'est-à-dire des. On a déjà des niveaux de sécurité différents, mais en fait, d'avoir un autre système. Qui transcenderait ce qui est maison d'arrêt, centre de détention, maison centrale, ce serait d'avoir, quel que soit des niveaux de sécurité de 1, 2, 3, 4, et puis des établissements spécialisés pour certains profils.
Donc peu importe la longueur de la peine, comme c'est le cas avec le système maison d'arrêt, centrale, etc.
À peu près.
Ouais.
Ouais. par profil, mais c'est pas très défini leur truc.
Et du coup, le profil, c'est eux participent aussi à définir ce profil, en fait, les surveillants.
Bah donc, en tout cas, s'ils n'y participent pas, ils s'arrogent le droit de décider, comme pour Rachid, là. Finalement, c'est eux qui décident s'il est atteint d'une pathologie mentale ou non. C'est eux qui décident quel niveau de sécurité il doit avoir, s'il doit travailler ou pas travailler, quoi. Syndicalement, en tout cas, ils le font,
Donc, ils sont vraiment quand même assez puissants. Enfin, en tout cas, ils ont vraiment un écho médiatique. En plus, ils ont un écho médiatique qui du coup, ne permet pas la prise de parole, en tout cas, pour... Enfin, ils prennent vraiment un espace médiatique, en tout cas, sur la prison. Et
Clairement. Et après, alors, c'est l'UFAP qui est plus puissant à ce niveau-là. Mais ce qui est fou, c'est que par exemple, on ne sait même pas ce qu'ils représentent. C'est-à-dire que personne ne sait le nombre de surveillants syndiqués ou non. Et donc, en fait, ils seraient une poignée, ils seraient 10. Ils auraient le même poids, quoi. On sait absolument pas ce qu'ils représentent. Et comme tous les autres surveillants, enfin, tous les personnels pénitentiaires sont soumis à un devoir de réserve, n'ont pas le droit de s'exprimer, il n'y a que cette voix-là qui s'entend. Et impossible de dire quelle est la part de représentativité.
Ok. Et du coup, donc là, est-ce qu'ils ont fait appel ou pas?
Pas à ma connaissance.
Ouais.
Mais on est encore... ils ont encore un petit délai.
Il y a encore un peu le temps.
Ouais. Et là, Rachid, il se trouve à l'UHSA maintenant.
Ouais.
Okay. À Lyon.
À sa demande. C'est-à-dire que c'est une unité pour hospitalière, soins psychiatriques, mais c'était à sa demande et c'était dans la volonté aussi d'avoir une zone un peu tampon
avec
la pénitentiaire.
Ouais, lui, il qualifie.
Et d'ailleurs, comme il est atteint d'une pathologie mentale et qu'il n'a pas besoin de soins, c'est qu'il n'y reste pas.
Et potentiellement, il pourrait nous entendre d'ailleurs s'il avait une radio, parce qu'on est rediffusé à Lyon aussi. Voilà. Je ne sais pas s'il a un poste dans sa cellule.
Est-ce qu'on a fait un peu le tour ou vous vouliez rajouter quelque chose en plus par rapport à cette histoire-là? Parce que du coup, juste avant, on avait parlé de Fabrice Borromée, qui c'est aussi très très compliqué pour lui.
Mais c'est pareil, la peine initiale était un peu plus importante, mais on est dans le même système de servicieux, de peine interne, quoi. Et il y en a d'autres. Après, Rachid, ce qui est vraiment hallucinant, c'est qu'au départ, toutes ces peines qui commencent à tomber, c'est de l'outrage, de l'injure, etc., mais qui sont sur des faits mineurs, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire, on a un gamin qui rentre en tôle dans un univers où tout est complètement inversé, donc il est contraint, enfin même avec des règles qu'il ne comprend pas, il n'a pas les bonnes godasses, on va lui interdire la salle de sport, donc il s'énerve, etc. Mais ça, on peut imaginer que n'importe qui aurait le même type de réaction. Et que finalement, il y a eu un déploiement, mais alors hallucinant, de l'arsenal judiciaire, puis pénitentiaire, mais pour le faire rentrer dans le rond, mais qui n'a provoqué que l'inverse, quoi. Et aujourd'hui, il est le pur produit de tout ça. Et personne n'interroge cette situation. En fait, c'est bien plus facile de montrer son parcours ou ses projections d'excrément pour dire que ce serait de sa faute ou sa situation, sans interroger la structure, quoi. Et comment on en est arrivé là. Et pareil, la folie, elle est bien facile, quoi, dans ces cas-là.
Et du coup, c'est ce qui interroge, et puis on va conclure l'interview. Mais
il y a même un directeur, un ancien directeur qui a démissionné, qui connaissait Rachid, mais pour lui, c'était le pire exemple de la folie du système dans lequel il était, quoi.
C'est vrai qu'on en avait parlé aussi ici. Ouais.
Et juste parce que vous avez peut-être pas pu du coup écouter le début de l'émission, mais on avait une personne qui nous faisait le récit des comparutions immédiates au TJ de Bobigny suite à tout ce qui se passe avec Théo, etc. Et que elle expliquait qu'en fait tous ces jeunes étaient de la chair à justice, de la chair à prison. Et qu'en fait, ce sort-là, en fait, le sort de Rachid, il n'est pas isolé dans ce cas-là. Il y en a d'autres, toutes les peines intérieures qui sont prises, accumulées du fait de la détention, rallongent les peines. On en vient des peines interminables. Et c'est pas, Rachid, c'est pas et ça ne sera pas un cas isolé de cette histoire-là. Non, de cette histoire sociale.
C'est loin d'être un cas isolé, c'est le cas extrême. Il est loin d'être isolé. Ouais. Il devrait interpeller beaucoup plus largement, quoi. Mmh.
Donc voilà. Et ben en tout cas merci beaucoup. Et puis on donnera des nouvelles du coup. Ouais. Voilà à ce propos. Merci et bonne soirée.
Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
Ciao.
Voilà. On voulait parler de Mulhouse. Il est 20h57 et le chef nous a dit qu'on avait 1:20 supplémentaire. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Eh ben on va faire ça vite fait alors. En plus c'est quelque chose dont on voulait parler, parce que c'est une nouvelle qui date un peu, dont on voulait parler aux dernières émissions, on n'avait pas vraiment eu le temps. En fait c'est l'histoire d'un prisonnier qui s'appelle, comment s'appelle-t-il ? C'est un prisonnier en tout cas qui est allemand et qui s'est retrouvé récemment en café de la prison. En Allemagne et en Autriche, et qui s'est retrouvé à Mulhouse récemment. Voilà, c'est Hervé. Georges Huss. Voilà. Il a transmis par l'intermédiaire du Génépi, qui a transmis à l'envolé ensuite une lettre de revendication. Sachant que c'est un prisonnier qui a l'habitude un peu des bagarres, puisque visiblement il fait partie d'un syndicat de prisonniers en Allemagne. Il y a un syndicat de prisonniers en Allemagne qui est... Bon, les syndicats de prisonniers sont interdits, mais il y en a quand même un qui se bat visiblement, surtout au niveau de la question du droit du travail en prison en Allemagne, qui est à peu près le même qu'en France. Il a monté une section aussi dans une prison en Autriche quand il était prisonnier en Autriche. Et là, il arrive à Mulhouse et il hallucine sur cette maison d'arrêt là, qui est une maison d'arrêt très vieille et très vétuste. Voilà, donc on va lire. Donc il s'est mis en grève de la faim le 1er janvier 2017. Et il avait une liste de demandes du coup qu'on va lire. Alors la première, c'est elle commence par la fermeture de la maison d'arrêt de Mulhouse dans 3 mois.
Ça mérite d'être clair.
Voilà. Deuxième, observation immédiate et détaillée de la maison d'arrêt de Mulhouse par des organismes gouvernementaux, des agents non étatiques, des consulats responsables pour les étrangers dans la maison d'arrêt de Mulhouse, des syndicats de gardiens de la maison d'arrêt de Mulhouse. 3. Amélioration immédiate des conditions matérielles et des insuffisances en matière d'hygiène, moisissures noires, etc. 4. Investigation immédiate et collecte de preuves par le procureur. Voilà, bon, je pense qu'il y a des choses qui l'idéalisent, ou alors peut-être il pensait que la France était encore le pays de la liberté, va savoir. 5. Consultations et soins médicaux spécialisés par des spécialistes extérieurs pour les prisonniers s'il en faut. 6. Autorisation de recevoir de l'argent par courrier et facilitation des procédures internes ou des empêchements de versement. 7. Mise à disposition des interprètes, délivrance de tous les formulaires, documents, dossiers et annonces dans les langues adaptées à la population prisonnière. 8. Égalité de traitement de tous les prisonniers sur le niveau national, européen et mondial. Concernant ma sécurité personnelle, 1. Pas de transfert de la maison d'arrêt de Mulhouse à corps défendant. 2. Ordonnance des mesures seulement en présence de mon avocat choisi et d'un interprète. 3. Liberté de communication avec des représentants, les syndicats des prisonniers allemands et autrichiens, avec l'ambassade d'Allemagne, Amnesty International Francfort. Mag Dr. Ernst Pulch, je ne sais pas qui c'est, et avec les représentants des médias. 4. Visite immédiate d'un membre du clergé germanophone à mon choix. 5. Visite dans les meilleurs délais de mon psychothérapeute. J'invite tous les prisonniers à s'unir, à créer des syndicats et à exprimer leur solidarité, surtout en France, mais aussi globalement. Solidarité dans la lutte pour les droits des prisonniers et respect des droits des prisonniers. Voilà, donc les dernières nouvelles qu'on a pu avoir, c'est parce qu'il il parle pas français, il parle que allemand du coup et espagnol visiblement. Les dernières nouvelles qu'on a pu avoir, c'est qu'il y a à peu près 2 semaines, il s'est mis en grève de la soif. Donc voilà, on ne sait pas plus depuis s'il est encore. Je crois que voilà, 2 semaines de grève de la soif, je crois que c'est de la faim, c'est compliqué. Donc voilà, c'est toujours pareil, dans ce genre de situation. Parce qu'on peut faire à part harceler de courriers et de coups de fil la maison d'arrêt de Mulhouse, la direction, etc., en sachant que qu'il y a des gens qui savent ce qui se passe et qui connaissent la situation de ce prisonnier qui, je rappelle, s'appelle Georges Housse. On peut faire ça et éventuellement lui écrire pour du soutien. J'ai pas l'adresse là exacte de la maison d'arrêt de Mulhouse, mais elle peut facilement se trouver sur le internet.
Et quoi qu'il en soit, là l'émission elle touche à sa fin et du coup on mettra en ligne cette émission, toutes les infos, rappel du litchi pour les comparutions immédiates et l'adresse où écrire à Georges et pour rappel, donc émission Papillon chez CSA La Gueule Noire, 16 rue du Mont, 42100 Saint-Étienne, une adresse mail émission Papillon tout attaché @riseup.net. Voilà.
Et pour retrouver les émissions et toutes les infos, c'est sur le numéro 0.l'autre.net.
Tout à fait. Voilà. C'est
ça. Voilà, nous on se voit dans 2 semaines, la semaine prochaine, la petite cuillère. Et portez-vous bien.
Gardez la pêche. Ciao.
Bonnet sur les yeux à la barre des villes. J'aime traîner dans les lieux de mon Havreville. J'suis de l'époque des trommeurs dans le bar de mine. Et des mines, des confites à coups de baramine. Oh. Que de drames de hur. Fais de nous de bons dramaturges. Quelques grammes de pur. Tu t'endors dans les bras de ta nature. Oh. J'en perds mon latin, perquise au matin. Tu perds le terrain, faut en descendre un. J'cause comme un bouquin, j'suis pas écrivain. Mais j'décris la vie urbaine en alexandrin. Cruciverbiste, j'craque le vernis. Tellement de choses à dire que j'déborde la ligne. La plume est magique, feta et magie. Brassens, Brel et Ferraille, c'est l'album de la ligue. On a nos propres préférences. Les tiennes, on se les octroie. Ta philosophe de France. Moi, mon Socrate habite le 9-3. Mon psychiatre le plan down. Depuis le son des bandits, boy. Ici je n'ai plus le journal. Sauf 3W Bondi. Blog, rentre dans la war room. Des games de gourou. J'ai le bon discours, je suis comme un tout bivalourde. La valeur d'un lourd, une perle dans la palourde. Nos quartiers bressons dans la pâleur du jour. J'introduis l'art mineur sur le marché de l'art. Quand le peur a fait le bruit d'une machine à dollars. On est tous des casseurs, je lance des pavés de marbre. Black, bloc, tulipe, noir. Infrabasse dans la berline. Quand la rue transporte les litres, une grenade dans la playlist. Trop de la prose, on est l'élite. Musique outrancière, bouffeur de papier, prêcheur à capuche. Ce soir, je suis seul en scène, je rappe, j'ai papier, je prêche mes convaincus. Ouais, je m'ai convaincu. Ça vient pour s'ambiancer. Chez nous, les seuls petits qui nous font danser, on le carnoncier. Musique argotière, prêtre des paliers, pasteur des prévenus. Ce soir, je suis seul en scène, je rappe, j'ai papier, je prêche mes convaincus. Le rap, un sport d'esclave qui porte l'espoir d'une jeunesse oubliée. On fait du street art sur les bancs de l'histoire. Nos barres d'immeubles font partie des meubles. Un jour, l'hexagone se souviendra qu'on est la partie noble. Un rappeur qui meurt, une biblio qui brûle. Je suis membre d'un gang et d'un club de lecture. Peu taciturne et la langue du bitume. Les tatouages à l'encre, on raconte le vécu. Pas d'œuvre au rappé, c'est pas du rappelé. Un poème qui sera, c'est dur à s'en rappeler. Je suis pas républicain, je suis démocrate. Et jusqu'à ce qu'elle m'aime la France, je vais la démographier. Mon brouillon, c'est ton prix concours. Au FNJ, je donne des cours de langue. On fait dans le son et dans les discours. Comme le nègre de François Hollande. Ça te rend heureux d'entendre mes chansons tristes. On vit la torture sous anesthésie. Ça me rendra pas plus politique. Si je kick sur les beats de Pierre Sarkozy, goûte au préau. On vit en vase clos. Les autres sont des tricycles au salon de l'auto. Je suis donné pour mort, puis l'époque Mitterrand devient jeune vétéran au page rose du Tico. Ils possèdent la musique, nous la faisons. Et j'envoie mes lyrics dans l'inframonde. Mais Aragoun des momifies, Louis Aragon, c'est du punk noir. Proteste, fou. Infrabasse dans la berline.